Un bateau chargé de bois de chauffe glissait doucement sur le Houtgracht, le canal d'Amsterdam, le long des berges agréables sur lesquelles donnait la fenêtre de la maison louée par le très respecté M. Miguel de Espinosa. Mais le spectacle était trop banal pour susciter l'intérêt de ses enfants. Il faisait froid, car le mois de décembre avait déjà commencé. L'aînée, Myriam, une maigre fillette de 11 ans recroquevillée à la table, tenait sur ses genoux sa petite sœur, Rebecca, qui n'avait que 5 ans, tandis qu'Isaac et Gabriel se faisaient des grimaces. Étranger à ses frères et sœurs, Bento était encore occupé à essayer de comprendre la scène choquante à laquelle il avait assisté dans la synagogue.
« J'ai faim !»
protesta Rebecca, les larmes aux yeux.
« Quand est-ce qu'on mange ?»«
Du calme. Papa est parti chercher le déjeuner chez Donna Ruth. »
la rassura sa grande sœur.
Elle devait lui cuisiner des aliras à la Mirandella qui...
La porte donnant sur la rue s'ouvrit alors brusquement, ce qui les fit sursauter de peur. Ils regardèrent vers l'entrée et virent leur père faire irruption dans la maison,
tenant un panier dans une main et brandissant de l'autre, comme un trophée,
une bouteille de vin.
« Vive le Portugal !»
La scène stupéfia les enfants. Leur père, un juif respectueux et dévoué, n'était pas homme à se saouler. Ses acclamations pour la vieille patrie leur semblaient déplacées. Mais quelle mouche l'avait donc piqué ?«
J'ai faim !»
lança Rebecca.
« Je veux manger !»
Avec un enthousiasme débordant, Miguel se précipita vers la table à manger, posa son panier et alla chercher un verre dans la bibliothèque qu'il remplit de vin.
« Aujourd'hui est un jour de fête, les enfants !»
s'exclama-t-il en levant son verre.
« Notre patrie est enfin libérée des Espagnols ! Vive la liberté ! Vive le Portugal !»
Il avala le contenu de son verre d'une traite. Ce comportement n'était pas normal. Et aucun de ses enfants ne comprenait ce qui se passait. Mais Bento était le plus perplexe de tous.
« Qu'est-il arrivé, père ? Pourquoi êtes-vous dans cet état ? Que s'est-il passé au Portugal ?»
Miguel posa son verre sur la table et s'essuya les lèvres d'un revers de la main.
« Un navire vient d'arriver de Lisbonne avec la grande nouvelle, » dit-il. « Le temps de la soumission à l'Espagne est révolu. Nous avons chassé Philippe IV et mis les Espagnols hors d'état de nuire. Oh, cette année 1640 restera dans les annales comme une année de gloire. Notre pays, notre grand pays, est à nouveau libre. Libre ! Le Portugal renaît. Vive le Portugal !»
Miguel se mit à sautiller au milieu de la pièce. Et les enfants l'imitèrent, se joignant à la fête, mais sans vraiment en comprendre le sens. Bento fut le seul à rester silencieux sur son siège. On ne pouvait pas dire qu'il partageait l'enthousiasme de son père. Comme la plupart des Yehoudis de la communauté d'Amsterdam, Miguel était un patriote portugais et ne permettait à personne de dire du mal de son pays. La question revêtait une telle importance que quiconque osait critiquer en public les représentants du Portugal risquait un cherem. Alors qu'il était parfaitement admis de s'en prendre à des Espagnols. Ce n'était d'ailleurs pas un hasard si la communauté de Houtgracht se présentait sous le nom de Nação, nation en portugais, et en aucun cas de Nación, nation en castillan. Et si, au sein même de la synagogue, toute communication autre que liturgique se faisait en portugais.
« Nous avons chassé les Espagnols !»
répéta Miguel, radieux, en avalant une nouvelle gorgée de vin.
« Maintenant !» Ça ne va plus être la même chanson. Oh, que c'est agréable.
Pour Bento, tout cela semblait absurde, étant donné qu'il s'entendait bien avec les Espagnols, ne serait-ce que parce que certains de ses amis à la synagogue étaient Espagnols, mais surtout en raison du traitement que la vieille patrie, dont pourtant tant de Juifs d'Amsterdam parlaient avec une profonde nostalgie, avait réservé aux Juifs, les envoyant nombreux sur le bûcher pour le seul crime de croire en la loi de Moïse.
Des informations terribles de ce genre continuaient d'arriver constamment de Lisbonne, Porto et Évora.
Comment était-il possible que son père et tant d'autres personnes dans la nation continuent de se considérer comme des grands patriotes portugais ? Parmi les Yehoudis, cependant, beaucoup ne voyaient pas de contradiction entre l'amour du Portugal et la haine du catholicisme. Une chose était la patrie, qu'ils aimaient inconditionnellement et qui leur manquait, et une autre, radicalement différente, était cette maudite inquisition qui les avait forcés à abandonner leur terre bien-aimée. Dans le cas de son père, ce patriotisme portugais exacerbé se mêlait à un zèle orthodoxe juif assez marqué, ce qui semblait encore plus étrange, sinon tragique, à son fils.
« Nous devons aider la mère patrie !»
ajouta le père, tellement surexcité qu'il était incapable de se taire, même s'il s'adressait sans doute plus à lui-même qu'à ses enfants.
Les Nunes da Costa disent déjà qu'ils vont envoyer un navire de guerre et des munitions pour aider notre peuple. Oui, parce que les Espagnols ne vont pas en rester là. Nous vivons un moment dangereux. Il nous faut aider notre pays.
Toutes les conversations dans la maison se faisaient en portugais, la langue maternelle de la famille Espinosa. En fait, c'était la langue naturelle de la communauté marane d'Amsterdam, connue des Néerlandais sous le nom de portugais, même si certains d'entre eux, une minorité, étaient d'origine espagnole. Dans les faits, la plupart des membres les plus âgés de la communauté n'avaient jamais pris la peine d'apprendre le néerlandais, bien qu'ils se soient installés là depuis fort longtemps. Bento et ses frères connaissaient la langue locale, bien sûr, puisqu'ils étaient nés à Amsterdam, mais ils ne parlaient pas le néerlandais avec la même facilité que le portugais. Pourtant, Miguel, comme les hommes de sa génération, refusait obstinément d'utiliser le néerlandais. Il accusait les habitants d'Amsterdam de grogner au lieu de parler et se plaignait sans cesse de cette langue grossière incompréhensible. Pour lui, il n'était pas question de l'apprendre.
« J'ai trop faim !»
protesta encore Rebecca, fatiguée par la danse, tout en regardant son assiette vide.
« Quand est-ce qu'on mange ?»
Revenant à la réalité du quotidien, le père plongea ses mains dans le panier qu'il avait posé sur la table.
« Ça vient, ça vient !»
Il se mit à fredonner des chants portugais de sa jeunesse, toujours dans l'effusion et la joie, et finit par prendre dans le panier les fameuses aliras de Madame Ruth, la vieille juive qui s'était enfuie de la région portugaise de Trás-os-Montes avec sa famille et qui cuisinait souvent pour eux. Miguel distribua la nourriture dans chacune des assiettes, puis posa sur la table une poignée d'oranges de l'Algarve, achetées par sa société d'importation de fruits portugais.
« Aujourd'hui, nous allons nous remplir la panse jusqu'à n'en plus pouvoir !»
déclara-t-il en faisant signe à ses enfants de commencer à manger.
« La renaissance de notre Portugal doit être grandement célébrée !»«
Est-ce que l'Inquisition va s'arrêter, père ?»
Miguel fit une moue sceptique.
« Je n'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est que si nous chassons définitivement les Espagnols, nous pourrons enfin reprendre nos relations commerciales avec notre chère patrie.
Mais, père, nous achetons déjà des fruits au Portugal. »
C'était vrai, et tout le monde le savait. L'Espagne avait décrété un embargo commercial avec les Pays-Bas. Mais les fonctionnaires portugais, qui aimaient tout ce qui irritait les Espagnols, fermaient les yeux sur cette interdiction de commercer avec les Néerlandais et surtout avec les Portugais d'Amsterdam. Un intermédiaire allemand, anglais ou français suffisait à sauver les apparences. Le commerce entre les Pays-Bas et le Brésil s'était poursuivi grâce à la collaboration des commerçants portugais, dont les Néerlandais avaient donné le nom à leurs navires et à leurs produits. Et les Portugais avaient toujours respecté leurs véritables propriétaires, même si les papiers officiels disaient le contraire. Les fonctionnaires portugais allaient même jusqu'à alerter les Néerlandais lorsque des Espagnols menaçaient leurs marchandises.
« Nous étions habitués à tout acheter en cachette, mon fils. Mais maintenant, tout va se faire au grand jour. Il faut fêter ça !»
En voyant son père de si bonne humeur, Bento se rendit compte qu'une occasion inespérée s'offrait à lui pour clarifier la question qui le taraudait depuis plusieurs jours. Le petit avait un esprit curieux et aimait tout comprendre dans les moindres détails, y compris la cause des choses. Mais il savait bien que son père n'était pas toujours disposé à lui répondre, ce qui le poussait en général à ne rien dire, car il n'aimait pas faire de vagues. Il fallait préserver le shalom bayis, la paix du foyer. Mais aujourd'hui, l'ambiance s'y prêtait, même s'il allait devoir se montrer rusé dans sa manière d'aborder le sujet. Il attendit que le déjeuner se poursuive encore un peu, laissant son père savourer le bon vin qu'il avait ouvert pour fêter l'événement. Lorsque son enthousiasme parut se calmer, ce qui coïncida avec la dégustation des oranges, Bento se lança.
« Maman connaissait-elle ce monsieur ?»
Il posa sa question comme si elle venait de lui traverser l'esprit. Sans comprendre le lien avec la restauration de l'indépendance du Portugal, Miguel eut une mimique d'incompréhension.
« Quel monsieur ?»«
Celui qui a proféré les blasphèmes et dont le cherem a été annulé l'autre jour dans les Snoga. »
Réalisant de qui son fils parlait, Miguel se ferma.
« Ah, Uriel da Costa. Qu'est-ce qu'il a ?»«
Dans les Snoga, il a dit s'appeler Gabriel. »
« Oui, mais tout le monde le connaît sous le nom d'Uriel. Pourquoi tu parles de ce malheureux maintenant ?»
Sentant le sujet sensible, le garçon fit comme s'il ne ressentait qu'un vague intérêt pour la question.
« Vous avez dit, père, que sa famille s'entendait bien avec maman. »«
Il s'entendait bien avec la famille de maman, »
corrigea son père en insistant sur le mot « famille ».«
Dieu a voulu que les Garces et les Costa se connaissent depuis l'époque où ils vivaient à Porto. »«
Si nos familles étaient proches, on n'aurait peut-être pas dû lui marcher dessus. »